Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Mine de rien, la saison tennis avance à grands pas. On arrive dans le dernier droit de la saison. On est en Asie, on va en parler aujourd'hui. Mais d'abord, je veux saluer mes éminents collègues Hugues Léger en direct du Stade Jarry, où les feuilles commencent tranquillement à changer de couleur. Mais il y a encore un peu de tennis sur les terrains de Tennis Montréal. Je regardais ça, là, j'ai passé dans le coin de Verdun la semaine passée. C'était plein à 9h le soir.
J'ai l'impression que je le dis à chaque semaine en ce moment, les gars, mais maudit que les week-ends sont beaux et que la saison s'allonge vraiment. Fin septembre, début octobre, plusieurs parcs là, nous ont demandé d'étirer nos activités cet automne et on voit que ça devient une pratique régulière là, d'avoir beaucoup d'activités jusqu'à la fin septembre, mi-octobre. Donc, tant mieux, profitons-en. On rattrape les beaux jours d'été qu'on n'a pas eus. C'est vraiment le fun, là, le beau temps qu'on a en ce moment. Puis, je veux souligner quand même, Alexandre, et pour nos auditeurs aussi, on a eu une petite fête à Tennis Montréal vendredi dernier pour souligner le départ de Mira Teodorescu, une coach CP2, entraîneur 2 national, qui a formé beaucoup de jeunes de la relève, qui quitte Tennis Montréal pour des raisons personnelles. Elle s'en va vivre à Granby, dans ma région, en fait, pour essayer d'acheter une maison. Mais écoute, il y avait 150 personnes qui sont venues saluer Mira Teodorescu, une très, très bonne coach de la relève au Québec.
Il y a beaucoup de tennis dans le coin de Granby. C'est même une des plaques tournantes du tennis au Québec maintenant. Ça, c'est absolument certain. Nico, les feuilles changent de couleur, mais il y a quand même du tennis. Mais ça veut dire aussi que ta saison de ski et repousser un petit peu, là. En tout cas, la neige, je ne vais pas sentir encore, là, même en
début d'automne. Oui, c'est drôle que tu en parles. J'ai commandé ma passe de saison il y a quelques jours à peine. Ah mon Dieu, les gars, cette transition automnale, à chaque année, me fascine, que ce soit pour les sports qu'on pratique ou les sports qu'on regarde à la télévision. L'offre est alléchante. Hugues l'a dit, on dirait que le mois de septembre et le nouveau mois d'août, là, c'est hallucinant. Je reviens d'une partie de golf notamment aussi, puis c'est pas terminé. Il y a encore de belles semaines devant nous. Pour le tennis, pour le golf, en tout cas, bref, c'est pour les amateurs de sport, là, le mois d'octobre, là, c'est pas mal, je pense, le plus beau de l'année.
Oui, messieurs, c'est rare que je vous donne de mes nouvelles gratuitement comme ça, mais j'ai besoin d'en parler, ça va me faire du bien. Ce week-end, je n'ai absolument rien fait.
Ça, c'est le plus grand luxe, Alex.
Ça faisait déjà plus d'une trentaine de jours consécutifs là, que je travaillais, j'ai fini tous mes trucs vendredi soir. Et puis, j'ai passé l'essentiel de mon week-end dans mon lit, un petit peu dehors quand même, il faisait beau. J'ai joué au PlayStation, puis je me suis reposé parce que je repars sur un autre stretch. D'ailleurs, je pars dans les Maritimes dans pas long, mais non, ça m'a fait un des plus grands biens. Même que ce matin, je vous dirais, au gym, il a fallu repartir la machine, on est un petit peu rouillé là. Ça a fait du bien de dérouiller le corps. Voilà. Ça m'a fait. J'avais besoin de vous parler de ça. Ça m'a fait un grand bien. Et si vous le voulez bien, ben, on va parler de tennis puisque c'est notre mandat. Et on va commencer en Asie. On va finir aussi en Asie. Ouais. C'est pas mal là que ça se passe. On est d'ailleurs dans un stretch un peu bizarre là, pour suivre le tennis. On l'appelle le stretch des puristes, là, Hugues et moi, parce que souvent après le US Open, le mainstream décroche un peu. Ouais. Et honnêtement, j'avoue là, que c'est pas évident. Là. On est hors série, non seulement au niveau des heures pour nous, mais au niveau du tournoi. Tu sais, là, on a des tournois qui sont en mi-tournoi ou à peu près, là, ou presque fin de tournoi, là, avec des demi-finales, mais en général, le lundi, on fait des recaps de tournois et non pas des mises à jour de tournois la plupart du temps. C'est un peu bizarre, mais toi, Hugues, as-tu de la difficulté? C'est-tu un passage que tu aimes suivre, le passage asiatique?
Non, c'est plus compliqué, j'avoue. Moi, je vais être beaucoup plus motivé par les affiches qui nous sont offertes là, pour me connecter sur les matchs. Il y en a des très belles en ce moment. Là. On va en parler un peu plus tard, là, mais ce qui se passe du côté de Pékin, ce qui s'en vient à Shanghai pour les hommes, c'est vraiment intéressant. Mais non, c'est plus compliqué pour moi. Puis effectivement, le US Open, c'est un feeling de fin de saison. La Coupe Davis après qui étire un petit peu ça. Habituellement, on se donne le rendez-vous le plus tôt pour le Masters de Paris-Bercy fin de saison et les finales de l'ATP. Donc là, ça demande un petit peu plus d'effort. On est comme toujours décalé un peu. Donc il faut être vraiment motivé pour les suivre.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là. On va reprendre un petit boost. Ou en tout cas, c'est plus facile d'un point de vue nord-américain, du moins, de suivre vers la fin novembre, là, quand on arrive justement au final WTA ATP et également le Master de Paris, comme tu l'as souligné. Nico, difficile pour toi de suivre le passage asiatique alors que toi, tu suis multiples sports en même temps?
c'est pas que c'est plus difficile, puis je fais du pont sur ce que Hugues disait, c'est que même au niveau, puis sur le plan, c'est-à-dire de l'intérêt du spectateur moyen, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, plus qu'on pense, qui croient qu'après le US Open, c'est terminé.
Ouais, se passe plus rien. Ouais.
Donc, pour ce qui est de l'engouement, de générer des clics, de générer des heures d'écoute, avec le hockey, notamment dans un contexte québécois ou canadien, la saison de hockey qui recommence, c'est dur de faire comprendre aux gens qu'il y a encore du bon tennis qui s'en vient. Et repensez à Félix l'année passée, notamment, c'était fin octobre, début novembre, je pense. Là. Mm-hmm. Puis ça a été probablement le plus beau stretch de l'histoire du tennis canadien. Fait que oui, encore du beau tennis, mais c'est vrai que sur le plan de l'engouement, c'est plus difficile.
On pourrait s'en reparler, ça, du plus beau stretch. Du tennis canadien, peut-être que la séquence Montréal-US Open de Bianca bat ça, mais...
Oui, bien sûr. Oui, bien
Toronto-US oui. Open, par contre, mais c'est quand même un des plus beaux du côté masculin, ça c'est certain. Et justement, bon, tu m'amènes sur le sujet dont je voulais parler en premier, Nico. Parlons-en de Félix Auger-Aliassime. Et bien, franchement, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de vous entendre, parce que les semaines se suivent et se ressemble dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Il était à Pékin, il a joué son premier match, un match de deuxième tour contre Holger Rune. Vous allez me dire, bon, c'était pas évident, c'est Holger Rune. Mais c'est une autre défaite à son premier match. Écoutez, il n'a pas gagné beaucoup de matchs là, depuis Indian Wells au mois de mars. Là, c'est défaite par-dessus défaite, une petite victoire surprise ici et là. C'est pas évident pour Félix, ce que...
Écoute, j'ai creusé un peu parce que je voulais faire le point après ce match contre Holger Rune, qui était pour moi un match-up intéressant pour lui parce que Rune aussi revenait d'une très mauvaise séquence, blessure au dos. Donc, je pensais que c'était un match qui aurait pu aider Félix dans sa relance. Je l'ai beaucoup vu au Centre national depuis deux semaines et demie. Il s'est reposé, il s'est préparé ici à Montréal, au Parc Jarry, au Stade IGA. Il jouait beaucoup sur le central. Durant ces jours-là, je pensais que cet autre repos aurait été salutaire, mais non, autre défaite contre Holger Rune, qui a perdu par la suite contre Dimitrov. Je vais le mettre un petit peu en contexte. C'est une fiche de 14 victoires, 17 défaites en 2023 jusqu'à maintenant pour Félix. Un win rate, un taux de réussite de victoire de 45%. Qui est son plus bas depuis qu'il est rentré sur le circuit en 2018 professionnel. Donc, il y a vraiment des enjeux importants pour Félix en ce moment. Puis, on le sait, Nicole l'a dit, vous en avez parlé, les gars, le mois d'octobre, ça avait été son mois de réussite en 2022 où il était monté au sixième rang. Il a 1000 points à défendre ce mois-ci, donc 250 et un ATP 500. Et il risque de tomber à la 38e position. Il est à la 15e ce matin, si jamais ça se passe mal pour lui. Mais il y a des enjeux pour Félix qui sont importants. Mais ça va être mon dernier point. Contre Rune, j'ai vu des choses intéressantes. Il a essayé d'être plus agressif. Il n'a pas eu beaucoup de réussite, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas Félix qui joue moins bien. C'est le tennis qui a monté de niveau depuis un an. Il est un petit peu décalé, selon moi, en ce moment. Et il a essayé de faire des choses un peu plus créatives, d'écourter les points un peu, d'être plus offensif, agressif. Mais malheureusement, pas avec assez de réussite. Mais je pense que l'intention tactique était intéressante. Mais bon, moi, de tous les dangers octobre pour Félix en 2023.
Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas, Hugues? Parce que tu es beaucoup plus tempéré que d'habitude sur ces performances-là.
Non, moi, écoute, je suis déçu, là, je vous l'ai dit. Je suis un triste, surtout triste. Deux, je suis déçu parce que j'ai l'impression qu'il y a un décrochage là en ce moment entre Félix et les joueurs du top 10, top 5, assurément. Mmh. On pensait qu'il s'en rapprochait, mais non, il s'en est éloigné. Et là, à deux reprises dans l'année, il a dit « Bon, je ne peux plus vraiment dire que c'est mes blessures, je me sens plutôt bien, ça devrait mieux aller. » Puis il n'y a pas eu cette phase où on a senti qu'effectivement, les petits pépins physiques ou mentaux qu'il a pu avoir durant la première partie de l'année étaient derrière lui et lui permettaient d'avoir de meilleures performances. Et je vous le dis, le match contre Holger Rune, c'était un match prenable. Rune revenait d'une mauvaise séquence, je le répète. C'était un test idéal, mais malheureusement, il ne réussit pas à gagner un set contre Rune. Donc là, je passe de triste à un peu inquiet. Là.
Nico, j'ai une analyse pour toi. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. La dernière fois que Félix Auger-Aliassime a gagné plus de deux matchs dans un tournoi, c'était au mois de mars à Indian Wells. Et ouais, j'y étais.
Ouais.
Je pense que c'est grâce à moi. Et depuis, mais je suis dans aucun tournoi et ça ne va pas bien. Est-ce que tu penses que je suis la cause de ces défaites?
Je pense que tu es la cause de toutes les défaites de tout le monde. J'aurais deux choses à souligner par rapport à Félix. D'abord, la première, c'est vrai que cette défaite-là, elle fait mal parce qu'il ne pourra pas défendre ses points avec rythme. Hugues en a parlé, je pense qu'il comptait sur la période post-Coupe Laver ou même la Coupe Laver pour peut-être reprendre du galon, reprendre confiance, reprendre un certain rythme, chose qui n'est pas arrivée, on l'a vu. Cependant, puis je vais redire quelque chose que j'avais dit à propos de Leila. Je pense que c'était cet été autour de Wimbledon. Ce qui m'inquiète le plus par rapport aux performances de Félix, c'est pas qu'il rate des titres. C'est pas ses défaites contre les meilleurs joueurs. C'est sa glissade au classement qui fait en sorte qu'on se rappellera, les gars, dans les tournois, la façon dont c'est fait, plus t'es mal classé, plus t'affrontes de meilleurs joueurs. Exact. Et là, plus ça va aller, plus Félix glissera, parce que je pense pas, comme Hugues l'a souligné, qu'il va défendre ses 1000 points.
Non.
S'il se retrouve à l'extérieur du top 20, à l'extérieur du top 30, ben chaque adversaire de premier tour sera de plus en plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire que déjà que Félix en arrache dans ses matchs de premier tour, on le sait, c'est sa grande faiblesse.
Si ce n'est pas le premier tour, ça va être le deuxième ou le troisième.
Ben, exactement. Plus il va glisser au classement et plus les adversaires qu'il affrontera dès le premier tour seront coriaces et donc mieux classés, ce qui va être de plus en plus difficile. L'autre point, c'est qu'à la fois, je suis comme Hugues, c'est-à-dire un peu triste là, puis de ce qui arrive présentement, mais j'aimerais faire comme Alex Reginbald et prendre du recul et rappeler que, bon, tu l'as dit, depuis Indian Wells, ça fait 7 mois.
Ouais.
Et je ne pense pas que dans une carrière, 7 mois, c'est névralgique. Ouais, Félix est arrivé au 6e rang mondial.
Ouais.
Tu n'arrives pas proche du top 5 par hasard. Il a le talent, il a les outils. Doit-il s'ajuster à plusieurs égards? Oui. Mais est-ce que c'est une saison oubliée tout simplement? Je pense aussi que c'est le cas. L'an prochain, je suis convaincu que Félix, après un mois de décembre plus reposé que celui qu'il a connu l'année dernière, va arriver plus frais, plus dispo, avec les esprits peut-être plus... avec de meilleures intentions également. Fait que moi, je suis convaincu que c'est une passe difficile, mais que Félix, faut que j'allais essayer, moi, ce qu'il faut pour revenir au plus fort de la course.
Oui.
Hugues, tu veux ajouter quelque chose?
Ben oui, je pense qu'il reste du temps, les gars. Hein. Je ne suis pas en mode panique, là. Mm-hmm. Je suis en mode inquiet pour 2023. Il est jeune encore, il a 23 ans, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs bonnes années devant lui pour remonter, mais je crois quand même qu'il doit faire des ajustements au niveau de son jeu. Son jeu de 2019, 2020, 2021, 2022 n'est pas suffisant maintenant pour aspirer au titre de Grand Chelem qu'on pensait auquel il pouvait aspirer dès cette année. Et c'est là, moi, que je pense qu'il y a un ajustement à faire. Et je n'ai pas les réponses au niveau de son entourage et du niveau de coaching et de l'équipe qu'il doit avoir autour de lui. Mais le jeu est plus créatif, je l'ai dit à plusieurs reprises, plus agressif, plus constant dans la création d'opportunités. Et je ne vois pas ça tant du côté de Félix. Je crois qu'il a essayé contre Rune, mais c'était maladroit un peu. On voyait qu'il n'était pas dans sa zone de confort quand il essayait. Il a fait beaucoup de fautes directes, ce qui est assez inhabituel pour lui. Mais je pense que oui, que ça va revenir, hein, Nico, je pense comme toi, mais qu'il y a des ajustements à faire au niveau de son jeu quand même.
Mais souvenez-vous, les gars, à quel point le mois de décembre, l'an passé, je pense, je suis convaincu, puis je suis sûr qu'il serait le premier à le dire, ça a changé la trajectoire complète de sa saison. Rappelez-vous, on a pris une semaine de vacances, gros maximum, là, puis on le sait à quel point au tennis, la saison morte dure quoi? 3 semaines? Un mois?
Ouais.
Puis c'est dans cette période-là que les joueurs parviennent à s'ajuster entre la dernière et la prochaine saison. Félix n'a pas eu ce temps-là. Puis Hugues l'a dit, tu sais, cette espèce de défaite surprise des autres joueurs. Oh mon Dieu, il a un gros service. Oh mon Dieu, quel coup droit. Les joueurs ont eu le temps de s'habituer et Félix, lui, est resté dans ses pantoufles parce qu'il a dû performer semaine après semaine. Fait que je suis convaincu que la grosse différence entre cette saison-ci et la prochaine sera l'entre-saison du mois de décembre.
Oui, très bon point.
On en a parlé à plusieurs reprises, à savoir sa fin de saison qu'il a poussé à la limite l'année passée. Et écoute, il a profité de la vague sur laquelle il surfait, puis il a absolument bien fait.
On aurait fait pareil, je pense.
On aurait absolument fait pareil, c'est sûr. Mais il reste que les athlètes, c'est des machines et le corps, il n'est pas infaillible. Et des fois, ben un petit quelque chose peut faire toute une différence. Alors, est-ce que plus de repos, une période des fêtes plus, ben, même des fois un petit peu avant, une période de repos plus importante l'aiderait, ça c'est sans doute. Puis je pense qu'on en a parlé beaucoup que cette séquence-là pouvait l'affecter durant cette saison, et plus la saison va avancer, ben, théoriquement, plus ça va l'affecter. Il a joué beaucoup de tournois à Félix, hein. Il n'a pas pris beaucoup de journées de congé, même, je m'attendais pas à le voir la semaine prochaine, ben, il y sera, là. On en reparlera un peu plus tard là, de son tableau, là, parce qu'il a quand même un tableau relativement intéressant. On en reparlera, mais c'est évident que ça peut l'affecter, là. Ça, c'est sûr.
Mais Alex, c'est un 1000, hein. Il faut qu'il soit. C'est un ATP 1000 la semaine prochaine.
Mais en même temps, les gars, qui dit aussi entre-saison, oui, changement de tactique, mais aussi, comment dirais-je, remise à neuf de l'entourage. Peut-être aussi, on en a parlé maintes et maintes fois, est-ce que ce sera le temps pour lui de s'asseoir avec les membres de son équipe et de se dire où est-ce qu'on s'en va et qui embarque? Je pense que ça va être un bon moment pour le faire.
Chose certaine, il y a des joueurs qui ont été beaucoup moins patients avec leur entraîneur
que
Félix l'a été. Tu sais, je veux dire, ça fait là, un bon 6-7 mois que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Lui se dit, ben écoute, on a gagné avec cette équipe-là. On va retrouver une façon ensemble de gagner, possiblement. C'est ce qu'il se dit et c'est très valable. Mais je veux rappeler une chose, et je pense que c'est Sylvain Bruneau qui disait ça il n'y a pas si longtemps. Mais il disait, tu sais, le Big Three est venu un peu, chambouler notre jugement d'une certaine manière parce qu'on est tellement habitué de les voir gagner semaine après semaine, mais ce sont des exceptions. Quand tu regardes pour l'essentiel des joueurs, c'est pas le cas. Tu gagnes pas semaine après semaine après semaine après semaine à moins que tu sois Alcaraz ou que tu sois Djokovic, Federer ou Nadal.
Mais en même temps, les gars, il faut se rappeler, regardez le top 10 actuel. Là. Oui, il n'y a peut-être pas de Federer ou de Nadal. Mais dorénavant, pour entrer dans le top 10 et y rester, il faut au moins un grand chelem et ou un Masters 1000. Ben, et Félix, en a combien?
Il n'en a pas.
Oh. C'est ça.
Il n'a pas de Masters 1000. Ouais. Il n'a pas de grand chelem non plus. Je vous demande une prédiction, messieurs. Là. Est-ce que vous pensez que Félix, les choses vont se replacer d'ici la fin de la saison où il va, entre guillemets, survivre jusqu'à la fin de la saison puis on met les énergies pour la saison 2024?
Je pense que c'est une saison à oublier, point barre. Ça a été difficile depuis le printemps, on l'a dit, on l'a répété. Je vois pas pourquoi ça pourrait s'améliorer. Bon, va jouer à l'intérieur, on sait que c'est possiblement sa surface ou du moins son environnement de prédilection. Mais je ne pense pas qu'il a les outils présentement, ni la confiance, ni le rythme pour revenir plus fort et défendre tous ses points. Je suis convaincu, puis je vous le dis, Félix glissera au classement. L'an prochain, pour le tirage de l'Omnium d'Australie, ce sera compliqué parce que son classement ne sera pas excellent. Je suis quand même convaincu qu'il va revenir plus fort l'an prochain, mais pour ce qui est de la fin de la saison 2023, ce sera extrêmement complexe pour Félix de revenir le joueur qu'il a été pendant un an l'année dernière.
Je comprends. Bon, on verra. On lui souhaite certainement le meilleur, Nico. Si on regarde ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que Félix dans ce tournoi-là, là, c'est sûr que nous, on le suit un petit peu plus. Mais il y a des demi-finales pas mal excitantes qui s'en viennent du côté de ce tournoi-là. Medvedev, Zverev, est-ce que ça t'allume un peu, ça, mon cher Nico?
Ben, on sait que ce sont deux gars qui sont capables de faire des étincelles, qui sont capables de faire des flamèches. Et tu sais, je reviens à ce qu'on disait plus tôt, là, que certains amateurs de sport ou de tennis oublient qu'après le US Open, il y a du bon tennis. La preuve, c'est que présentement, en Asie, il se joue du très gros tennis. On va sûrement parler de l'autre demi-finale, mais il faut dire que présentement, c'est du gros tennis. Medvedev pourrait poursuivre sur sa lancée. On sait à quel point il connaît une bonne saison. Retour aussi de Zverev. Non, franchement, c'est une demi-finale qui m'intéresse énormément. Évidemment, l'heure un peu moins, mais le nouveau tennis, oui.
La série entre les deux favorise Medvedev, mais Zverev a gagné le dernier match, ça se passait.
Et il revient. On se rappelle ce qu'il a fait depuis la fin de l'été. Alex Zverev revient.
Oui, il est très bon, Zverev. Et j'allais dire, Zverev a gagné le dernier affrontement. Ça se passait à Cincinnati. Ça avait été un match serré, 9-7, confrontation. Alors, deux gars qui se connaissent très bien. Et là, t'as allumé sur la deuxième finale. Et justement, moi, je suis bien allumé pour cette deuxième finale, demi-finale-là, parce que un duel Sinner-Alcaraz, honnêtement, on peut rarement demander mieux que ça au tennis.
C'est un vrai régal. Yannick Sinner a remporté un Masters 1000 il y a quelques semaines à Toronto, on sait à quel point Alcaraz il est doué puis que c'est son année. Vraiment, en fait, on est assuré, puis ce qui me ravit davantage, c'est qu'on est assuré d'une grande finale pour ce Masters 1000. Que ce soit Medvedev contre Alcaraz, qui serait du bonbon, puis c'est la finale que je souhaite personnellement, mais même si c'était Zverev ou Sinner, ce serait de l'énorme tennis. Donc oui, un gros, gros, gros tableau en Asie.
Et situation qui ressemble étrangement à celle entre Medvedev et Zverev, parce que Alcaraz mène la confrontation. Il a gagné l'essentiel des dernières confrontations, mais Sinner a gagné le dernier match. Ça se passait à Miami un peu plus tôt cette année, là, au mois de mars. Alors, intéressant, parce que l'avantage à Alcaraz, mais dernière confrontation remportée par Sinner, et Dieu sait que ces deux-là nous en avaient mis plein la vue lors du US Open 2022. Là. Alors, c'est toujours, toujours un régal, comme tu le mentionnais, d'avoir voir ces deux-là en action. Si ça ne te dérange pas, mon cher Nicolas, on va faire une courte pause et au retour, on va continuer notre résumé de ce qui s'est passé dans le monde du tennis et on va regarder aussi ce qui se passe du côté de Shanghai.
Est-ce que vous planifiez une escapade à Montréal cet automne? Profitez de l'emplacement idéal de l'hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de la ville. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez de 15% de rabais sur 3 nuits minimum, 20% de rabais sur 5 nuits minimum, 25% de rabais sur 7 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com. Réservez votre séjour à l'Hôtel Montville et ajoutez-y une expérience thermale au Strom Spa Nordique à seulement $75 directement sur le site hotelmontville.com.
J'entendais la promo de l'hôtel Montville sur la version podcast, évidemment. Là. Je veux les remercier parce qu'ils nous supportent depuis le tout début. Ils en ont profité cette semaine pour souligner la journée internationale du podcast et ont republié nos podcasts. Alors, merci à l'hôtel Montville et Hugues. Hugues, toi, tu es partenaire d'affaires aussi avec eux. Puis honnêtement, c'est un vraiment bel hôtel, l'hôtel Montville. J'invite tout le monde au centre-ville à aller faire un tour.
C'est une super équipe. Je collabore effectivement sur plusieurs projets avec eux. Une équipe très innovante dans le domaine de l'hôtellerie et de l'hospitalité à Montréal. Et ben, on renouvelle notre entente avec eux pour 2024. On peut le souligner tout de suite. Là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le podcast en 2024, mais déjà, on sait que nos partenaires de toujours, le Montville, seront avec nous l'an prochain.
Et ils ont des robots.
le H2D2. Donc, okay. H2 pour hôtel.
Je sais que la LHMQ a tenu une conférence de presse là-bas de départ. Là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Vous avez des salles à louer, vous avez des événements à faire. Là. La terrasse, elle est superbe aussi sur le toit là, au centre-ville. Alors voilà, c'est fait pour la petite plug d'un de nos partenaires. Hugues, avant la pause, j'ai demandé à Nico si Félix, on allait s'attendre à le voir survivre ou à le voir revivre d'une certaine manière. Ouais. Tu t'attends à quoi, toi? Est-ce qu'on se concentre sur 2024 ou est-ce qu'il y aura un regain d'espoir d'ici la fin 2023?
Très rapidement, je m'attends, parce qu'il est tellement talentueux, Félix, à ce qu'il y a quelques bons flashs dans les tournois intérieurs. Et pourquoi pas à Paris-Bercy? Il va être dans un environnement connu. On sait qu'il a fait les demi-finales déjà l'an passé. Il y aura sûrement Louis Borfiga qui sera sur place et beaucoup de Français qui sont amis avec lui. Donc, je m'attends à quelques bonnes performances, mais l'année 2023, en gros, sera à oublier. Je ne m'attends pas à ce qu'il remonte au classement. Là, voilà.
À oublier dans le cadre d'un gars qu'on voit top 10 mondial.
Une année d'apprentissage. Je pense qu'il l'a appris à la dure cette année, puis je lui ai dit, il faut gérer son calendrier. Je pense qu'il l'a appris, encore une fois, de façon dure cette année. Il a atteint beaucoup d'objectifs en 2022 grâce à cette poussée qu'il y a eu à l'automne, qui s'est terminée par une Coupe Davis et une participation au final de l'ATP. Mais là, il ne peut plus gérer son calendrier comme ça. Et comme le disait Nico, l'entre-saison, à plein d'égards, mental, physique, repos, mais technique et tactique aussi, surtout tactique, va sûrement apporter des ajustements pour 2024 et il y en a besoin.
On va rester du côté de Pékin, messieurs, si vous le voulez bien. Nico, Leila Annie Fernandez était en action. Elle a perdu au premier tour des qualifications après une belle performance à Guadalajara. Bon, les choses se sont replacées un petit peu là, depuis un peu avant Montréal. Là, les choses se sont replacées pour Leila. Mais quand même, là, c'est une défaite en qualification. Premier tour des qualifications contre Lys, une fille classée au-delà de la 120e place mondiale.
Et puis, n'oubliez pas que Guadalajara, c'est pas mal son tournoi. Là. C'est là qu'elle a remporté déjà des titres dans le passé. On parlait de saison oubliée pour Félix Auger-Aliassime. Je pense que le proverbial s'applique également pour Leylen Fernandez. Oui, de belles poussées en fin de saison. Cependant, Alex, t'en parlais hors d'onde. Ce qui est difficile et ce qui est dommage pour Fernandez, c'est qu'elle n'est pas capable de capitaliser sur ses bons matchs. On l'a fait à Montréal à quel point ça avait été fantastique finalement. S'écrase, là, présentement, elle avait du momentum. S'écrase, c'est ça qui est difficile, mais en même temps, c'est ce qui fait l'apprentissage d'une joueuse de sa trempe. Je suis convaincu que Leylen Fernandez va revenir un jour ou l'autre près du top 20, j'en suis convaincu. C'est pas du top 10, ouais. Quand même une finaliste de Grand Chelem, ne l'oublions pas. Malheureusement, puis je sais pas où Alex, tu t'en vas pour les prochains sujets, mais je pense pour tous les Canadiens cette année, c'est une saison à oublier, là, à quel point c'est difficile, mais j'en ai déjà fait des articles dans la presse. Ce qui est dommage, c'est que chaque athlète canadien connaît sa pire saison. Ce qui est dommage, c'est que ce soit tous en même temps.
Pour répondre à ta question, Nico, après elle est là, on va parler de ce qui sera surveillé dans ce tournoi-là. Par la suite, on s'en va faire un tour de Shanghai. On revient sur Félix Auger-Aliassime. Et ensuite, on va, dépendant de combien de temps on a, là, on a peut-être un sujet pour Hugues. Et le bloc 3 sera composé de performances de Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, une entrevue avec l'entraîneur des Caravans. Est-ce que ça répond à ta question, mon cher ami?
Oui, puis tu vois, saison oubliée, peut-être que pour Alexis et Gabriel, ça ne l'est peut-être pas. Donc,
c'est tout à fait le contraire.
Je me reprends sur ce que j'ai dit tantôt.
Tout à fait le contraire. Mais on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes standards. Tu sais, quand Alexis et Gabriel seront rendus à la porte du top 10, ben, évidemment, on aura plus d'attentes pour eux. Ça, c'est sûr. Bon, je ne veux pas nécessairement, encore une fois, prendre trop mon drapeau canadien sur mes épaules, mais il faut rappeler que, bon, la défaite de Lys au premier tour, même si Leila était en théorie favorite, ben Lys, elle a fait une bonne performance par la suite contre Ostapenko, et Ostapenko connaît une excellente saison. Alors, ça, c'est peut-être d'une certaine manière relativisé en disant, bon, mais regarde, c'est une fille qui a... Non, mais tu sais, on en rit de cette expression-là, mais il reste que... Ça rappelle aux gens à quel point les classements sont beaucoup plus serré qu'est-ce qu'on puisse penser, et de voir 70 ou 50 ou 30 à côté de 120, c'est beaucoup plus près qu'on peut penser pour des joueurs de tennis professionnels. Ouais. Et la preuve, c'est qu'elle a chauffé Ostapenko, qui connaît, je le rappelle, une excellente saison. Bon, dans ce tournoi-là également, messieurs, il y a beaucoup de grandes têtes de série parce que c'est un WTA 1000. Il reste encore Sabalenka, Swiatek et Coco Gauff. Rapidement, là, sans qu'on perde trop de temps sur les champions, vous voyez qui aller jusqu'au bout? Est-ce que Coco Gauff va continuer sur sa séquence absolument phénoménale?
Ben, moi, je remarque déjà que Sabalenka, comme nouvelle numéro 1, a commencé très fort en battant une des joueuses en forme du circuit en ce moment, Sofia Kenin, 6-1, 6-2, sans appel. Donc, Sabalenka, elle a vraiment en forme, une surface qu'elle aime beaucoup. Swiatek a fait des ajustements dans son jeu. Elle a travaillé sur ses volets, notamment dans les dernières semaines. Elle s'est reposée un peu après l'US Open. Une belle victoire contre Sorribes Tormo au premier tour, 6-4, 6-3. Mais effectivement, je pense que les trois qu'on va suivre jusqu'à la fin, là, ça sera Sabalenka, Swiatek et Coco Gauff.
Oui, Sabalenka, elle a un beau tableau en plus. Là. Oui. Elle aurait vraisemblablement une adversaire digne de ce nom en Rybakina en quart de finale, mais avant, c'est relativement plus simple. Ouais. Quoique, Paolini a une fiche gagnante contre Sabalenka. Ben voilà.
Mais, ouais.
Vas-y.
Non, ce que j'allais dire, c'est qu'oubliez pas, tu sais, j'ai senti dans ses interventions avec les médias cette semaine, j'ai senti aussi sur le jeu que, tu sais, oui, je pense pas que Swiatek, elle est orgueilleuse, mais je pense qu'elle a été piquée par le fait que dans les dernières semaines, Sabalenka est devenue numéro un.
Tout à fait
d'accord. Que Coco Gauff est revenue à l'avant-plan, qu'elle a connu son éclosion. Swiatek a été un peu laissée de côté pour la première fois en presque un an et demi.
C'est vrai.
J'ai comme l'impression qu'elle veut qu'on se rappelle que c'est elle peut-être qui mérite le premier rang mondial. Fait que j'ai senti cette hargne de Swiatek qu'on n'avait pas senti depuis un sacré bail.
Intéressant, Nico. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Je veux qu'on revienne à Shanghai parce que le temps file quand même. On a parlé de Félix Auger-Aliassime en début d'épisode. Eh bien, il a un tableau relativement prenable, Félix Auger-Aliassime à Shanghai. Il affronterait au deuxième tour possiblement un Fukovic ou un qualifié, ce qui est quand même une bonne nouvelle, Nico, dans son cas.
Ben oui, en même temps, il y en a tellement peu qu'on va toutes les prendre dans la mesure où, si on peut lui souhaiter peut-être un tour ou deux, ce serait l'idéal. Encore une fois, j'ai aucune attente. S'il peut gagner, tant mieux, mais sinon, on peut juste se rendre en décembre pour que ça se termine.
Hugues, à quoi tu t'attends du côté de Félix à Shanghai? comme je dis, il a un tableau relativement prenable et il a une fiche gagnante contre Fukovic. Et s'il fallait qu'il l'emporte, ben ça serait possiblement Cerundolo. Il a aussi une fiche gagnante contre Cerundolo. Il est dans la section de Medvedev, mais ce ne serait pas avant le quatrième tour. S'il fallait qu'il atteigne le quatrième tour, ce serait déjà
Le problème, c'est la confiance pour Félix en ce moment. Il y a le jeu pour battre tous ces gars-là, mais bon, effectivement, je pense qu'il y a un petit glissement au niveau confiance qui est tout à fait compréhensible, qui fait que ces matchs-là sont des matchs pièges. Je pense qu'il va passer Fukovic, mais Cerundolo lui a déjà donné beaucoup de problèmes et Medvedev n'est pas loin au tour après. Donc, effectivement, écoute, une stat que je n'ai pas donnée plus tôt, là, les gars, 11 défaites au premier ou deuxième tour sur ses 17 défaites en 2023. Donc moi, je suis toujours nerveux pour les premiers tours, deuxième tour de Félix.
Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de Félix. Moi, j'ai l'impression, écoutez, je vais vous dire, là, j'ai fait mon tableau du côté des prédictions de Tennis Canada. Là, je l'ai amené jusqu'à Medvedev. Est-ce que c'est du, entre guillemets, « wishful thinking » Mais il a un tableau prenable, là, je veux dire.
Théoriquement, c'est là qu'il se rend, théoriquement.
Ben, c'est ça. Et ça ferait énormément de bien s'il fallait qu'il ait joué contre Medvedev. Et après ça, même s'il se faisait détruire par Medvedev 6-0, 6-0, ça ne serait pas bien grave. Mais je ne pense pas que ce serait le cas de toute façon. Mais il reste que, bon, c'est prenable ce tableau-là pour Félix Auger-Aliassime. Il n'y a pas que Félix dans ce tableau-là, messieurs. Bon, les grandes têtes de série sont là, là. Bon, Medvedev et Alcaraz sont les deux premières têtes de série. Djoko n'y est pas. Mais je veux qu'on mentionne, j'ai eu un flashback, j'ai l'impression qu'on est en 2006. Fabio Fognini et Andy Murray sont de ce tableau-là. Nico, le nostalgique en toi doit avoir des frissons quand tu entends ça.
J'attends le retour de Lopez, j'attends le retour de Berdych, j'attends le... Exactement. Tu sais, c'est un drôle de tableau. En même temps, ce sont deux gars qui refusent de mourir, notamment Andy Murray. On en a parlé maintes et maintes fois. Moi, tant qu'Andy Murray veut jouer, je vais le prendre.
Ah, ben là, ça, c'est un peu le running gag. On parle des papis du tennis en France. Là. On met mon fils, Wawrinka, évidemment Murray, Fognini dans ce lot-là. Mais ils donnent des bons spectacles. C'est des gars qu'on a envie de voir jouer, qui vendent des billets. Moi, s'ils jouent un match, je suis ça à la télé à chaque fois.
Ben, j'ai hâte de voir. Moi, je vais vous dire, messieurs, j'ai une finale Medvedev contre Alcaraz. Ça ne prendra personne ici. Mais j'ai Medvedev champion.
Rematch de la demi-finale du US Open.
Je me dis, Medvedev a eu le meilleur lors du dernier match. Bon, évidemment, c'est pas évident battre Carlos Alcaraz deux fois, là, mais je pense qu'il peut arriver avec énormément de confiance. Et bien, sur dur, c'est quand même, ça reste difficile de gager contre Medvedev. Pour le fun, là, si c'était votre finale aussi, Nico, est-ce que tu irais avec Alcaraz ou est-ce que tu irais avec Medvedev?
J'aime ce que Medvedev fait en Asie. Il y a quelques semaines, je t'aurais dit Alcaraz, mais si c'est ta prédiction et que Medvedev l'emporte, je ne te lancerai pas de tomate, Alex. C'est tout à fait légitime.
Hugues?
Ben, écoute, Alcaraz a quand même gagné son quart de finale contre Casper Ruud assez facilement, 6-4, 6-2. Moi, je pense que Alcaraz a appris de sa défaite au US Open. Il l'a mal pris. Il a dit « J'ai manqué de maturité, vous vous souviendrez, les gars, après sa défaite contre Medvedev. » Je pense qu'Alcaraz va revenir plus fort et gagnerait ce match en finale si jamais ça a lieu à Shanghai contre Medvedev.
Hugues, tantôt, je mentionnais qu'on aurait peut-être un peu de temps pour un sujet pour toi. Ben, je pense que c'est le cas. Tu viens de parler d'une certaine controverse là, autour de la WTA et des performances. Je te laisse aller là-dessus parce que je pense que c'est un sujet important.
Les performance buys, donc les laissés-passer de performance, qui est une règle qui est arrivée en 2009 pour l'ATP, puis qui s'applique particulièrement au ce qu'on appelle le Asian Swing, hein, cette série de tournois qu'on vit en Asie en ce moment. Pour lesquels 4 laissés-passer seront offerts à des demi-finalistes de la semaine précédente. Donc, relié à leur performance, d'où le nom Performance Buy de la semaine précédente. Donc, ce n'est pas relié nécessairement au classement ou comme une wild card. C'est un laissé-passer pour dire, OK, il y a une joueuse ou un joueur, c'est une joueuse, c'est du côté de WTA seulement, ce règlement-là, qui a bien performé la semaine précédente et qui n'est pas dans le tableau du tournoi de par son classement, ben, elle aura un laissé-passer. Et c'est Rybakina qui s'est plaint de ça. Mais pourtant, ce n'est pas un nouveau règlement, là. C'était connu. Donc, moi, je pense que Rybakina, en ce moment, a une dent contre la WTA. Elle ne manque pas une occasion parce que c'est elle qui pense avoir un laissé-passer pour le tournoi. On se souviendra, à Montréal, elle avait été très, très vocale sur les matchs très tard en soirée. Ça fait trois fois, je pense, depuis le mois d'août, là, où elle lance une flèche à la WTA qu'elle qualifie de farce à plusieurs reprises. Mais je pense que c'est elle qui se trompe sur ce cas-ci. Et je pense que c'est bien cette règle-là qui permet à une joueuse qui a très bien performé la semaine précédente, puis sur des tournois qui se chevauchent en plus, d'avoir un laissé-passer pour le tournoi de la semaine suivante. Donc voilà ce qu'est le performance bye.
Ben, moi, je suis particulièrement d'accord avec cette réglementation-là et j'y toucherai pas parce que tu veux pas pénaliser un joueur, surtout par. Regarde, je donne un exemple. Alexis Galarneau, par exemple, si c'était le cas, se rend loin dans un tournoi, il est inscrit dans le tableau des qualifications du tableau suivant, remporte le tournoi.
Exact.
Et là, il est désavantagé parce qu'il vient de connaître toute une performance. Moi, je suis pour ça de dire, ben garde, oui, on va se garder une place dans le tableau principal.
Il reste quatre.
Tu sais, pour des gens qui, bon, la semaine d'avant, ont été obligés de changer leur plan de match parce qu'ils sont allés trop loin dans un tournoi. Tu sais, tu veux pas pénaliser un joueur qui a des bonnes performances comme ça. Alors, tu lui donnes une place dans un tableau principal. Oui, ça avantagera certains joueurs qui, autrement, peut-être n'auraient pas, auraient peut-être dû passer par les qualifications. Mais il reste que pour moi, c'est un bon règlement et je n'y toucherai pas, là. Et je comprends pas trop Rybakina bon, je comprends qu'elle était impliquée directement, mais ça, c'est aux organisateurs aussi, tu sais. Si t'as une Rybakina qui est prête à venir jouer dans ton tournoi, trouve-y une place. Là, garde-toi une wildcard de dernière minute pour des champions. Ben, les tournois le font de toute façon, là, mais pour des champions de Grand Chelem ou pour des grandes vedettes. Garde-toi-en une de lousse là, à dernière minute exact. Pour que justement, s'il y a une situation comme ça qui arrive. Demain matin, là, Maria Sharapova veut revenir au jeu. Là, puis elle t'annonce ça là, une semaine avant le tournoi. Là, elle surprend tout le monde, puis t'auras pas de place pour elle. Moi, j'étais les organisateurs de tournoi, j'en garderai une dans ma poche, quitte à la promettre à quelqu'un pour dire, garde, si elle est à toi, mais si jamais il y a un événement qu'on n'a pas vu venir, ben on va la donner, mais sinon, elle est à toi, un joueur local, peut-être idéalement. Enfin, ouais. C'est intéressant, je voulais qu'on puisse en parler de ce règlement-là. On va faire une courte pause et au retour, on a des nouvelles d'Alexis Galarneau et de Gabriel Diallo, une entrevue avec l'entraîneur-chef des Carabins.
Est-ce que vous planifiez une escapade à Montréal cet automne? Profitez de l'emplacement idéal de l'hôtel Montville pour explorer toutes les merveilles de la ville. Avec notre offre Restez plus et économisez, prenez le temps et bénéficiez de 15% de rabais sur 3 nuits minimum, 20% de rabais sur 5 nuits minimum, 25% de rabais sur 7 nuits minimum. Retrouvez l'offre sur hotelmontville.com. Réservez votre séjour à l'Hôtel Montville et ajoutez-y une expérience thermale au Strom Spa Nordique à seulement $75 directement sur le site hotelmontville.com.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, le Radio Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. J'ai promis des nouvelles de Gabriel Diallo et d'Alexis Galarneau avant la pause. Eh bien, Gabriel Diallo, lui, il a perdu ce matin contre l'Ukrainien Savchenko en deux manches. Ça se passait en France là, dans un Challenger. Alexis Galarneau, lui, sera en action un peu plus tard aujourd'hui. C'est au Challenger Tiburon aux États-Unis. À 5h30, il va affronter l'Américain Kipson. Alors voilà, c'est d'habitude la chronique du bon Abraham Santerre qui vient nous parler de ces joueurs-là. Mais Abraham n'était pas disponible. Hugues, est-ce que tu veux y aller avec ce qui est à surveiller avant qu'on passe à l'entrevue?
Oui, parce qu'on a des demi-finales de Grand Chelem à ce ATP 500 de Pékin. Un rematch, enfin, de Alcaraz-Sinner. On se souvient tous de ce match de folie du US Open 2022 en quart de finale. C'est une des belles rivalités du circuit. Et l'autre belle rivalité, dans l'autre côté du tableau, en bas, Zverev-Medvedev, la 17e rencontre entre les deux. C'est 9 victoires contre 7 défaites à l'avantage de Medvedev. Medvedev a gagné les 3 dernières rencontres. C'est 3-1 en 2023, mais c'est toujours des bons matchs, Zverev contre Medvedev.
Ouais, tu fais bien de rappeler ces demi-finales à surveiller. Nico et moi, on en parlait tout à l'heure et c'était on en salivait là, de voir ces demi-finales-là. Absolument, tu fais bien de le rappeler. Hugues, Ça faisait longtemps qu'on voulait l'inviter, l'entraîneur-chef des Carabins, parce que le tennis universitaire, on n'en parle pas assez au Canada, on en parle un peu dans la NCAA, mais c'est un tennis de très haut niveau. Il y a d'excellents joueurs qui sont sortis de là, et pas nécessairement des joueurs pros, mais des coachs, ouais, des entraîneurs, etc. Je nous laisse écouter cette entrevue, puis on vous revient tout de suite après.
Alors, on reçoit aujourd'hui, on est chanceux de recevoir David Desrochers, qui est directeur, coach en chef des Carabins de l'Université de Montréal, récemment champion canadien. Bonjour David, bienvenue au podcast sur la ligne. David, on se connaît un peu, ancien de Tennis Montréal, donc coordonnateur technique pendant plusieurs années, donc un gars qui est bien établi dans le tennis au Québec, puis qui porte un très, très beau mandat avec les Carabins depuis quelques mois. C'est un investissement important de la fondation de la famille Leblanc. Parle-nous un peu du projet des Carabins depuis l'investissement, David.
Bien, en fait, la famille Leblanc, ils ont fait un gros investissement sur 10 ans. En fait, leur objectif, c'est ultimement de garder plus de joueurs, de garder des cerveaux au Québec, puis de garder aussi des talents au niveau du tennis, au niveau du Québec. Il y a beaucoup de joueurs, même dans leur famille, là, Philippe Leblanc puis Sébastien Leblanc, ils ont des enfants qui sont en train d'étudier aux États-Unis ou qui ont étudié aux États-Unis en train de jouer au tennis, puis il y en a qui restent là-bas. Plusieurs de leurs amis aussi qui ont étudié aux universités américaines puis qui restent aussi aux États-Unis. Donc, tu sais, ils élèvent pendant 16, 17, 18 ans, ils vont aux États-Unis, puis après ça, ils restent là-bas. Donc, ils trouvaient ça dommage. Ils voudraient que les talents du tennis puis aussi les cerveaux restent au Québec. Là. C'est un peu ça leur mission, leur but là, avec ce don-là.
Très beau mandat. Puis je pense qu'il y a une place pour ça aussi parce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas seulement la voix du collège américain ou de la NCAA pour un joueur de tennis. Comment un joueur, après son sport-études au secondaire, son cégep, peut évoluer vers les Carabins? Ça peut lui ouvrir quoi comme perspective par la suite?
Bien, en fait, c'est pas tout le monde qui veut aller jouer aux États-Unis, exact. On s'entend. Là. Moi, par exemple, je suis allé à l'université, j'ai pas voulu aller aux États-Unis, ça n'a jamais été un plan. Avant, il n'y avait pas tant d'avenues que ça pour continuer à jouer après le secondaire. Donc là, il y a plusieurs écoles. Là. Donc au niveau masculin, on a 7 équipes dans la ligue. On a 6 équipes maintenant chez les filles. L'année passée, on en avait 5, là, on en a 6. Donc, Trois-Rivières vient de se donner une équipe féminine. Donc, tu sais, si on est une douzaine par équipe, ça ouvre la porte entre 75 et 80 joueurs qui peuvent rester au Québec et avoir une ligue qui est bien organisée, notamment par Tennis Québec qui nous aide beaucoup. Donc, ça fait un tennis qui est prometteur, qui est intéressant. On peut continuer de compétitionner après notre secondaire. Donc, avant, c'était beaucoup, on fait du sport-études. Puis là, si on voulait continuer à jouer à un haut niveau, il fallait aller aux États-Unis. Mm-hmm. Ça coûte quand même cher. C'est un investissement, un gros investissement d'argent si on n'est pas capable d'avoir des bourses. Donc, c'est une belle alternative pour les joueurs là, de rester au Québec.
Tout à fait. Justement, au niveau local, au niveau des universités du Québec, est-ce qu'il y a des avantages au niveau financier? Est-ce qu'il y a des scholarships? Sans comparer à la NCAA, évidemment, mais est-ce qu'il y a des facilités, disons, pour les joueurs à temps plein ou qui jouent encore à ce niveau-là?
Bien, je pourrais pas dire pour les autres universités. Là, je suis pas au courant à ce niveau-là. C'est sûr que les joueurs payent une petite cotisation pour jouer à l'intérieur de l'équipe. Par contre, ils ont accès à énormément de services. Donc, au niveau de l'équipe médicale, ils ont accès à environ 35 traitements de physiothérapie par année gratuitement. Donc, ça, ils ont accès à tout ce qui est l'équipe médicale. Ils sont bien suivis là-dedans. Ils ont accès à de la préparation mentale, de la préparation physique, de la nutrition aussi. On a des entraînements sur le terrain à chaque semaine. On a des compétitions. Qui dure du mois d'octobre jusqu'à la fin mars. Donc, il y a une certaine cotisation à payer, mais je vous dirais par rapport à la valeur qu'ils reçoivent, c'est vraiment pas dans les mêmes chiffres qu'un sport-études. Mm-hmm. Un sport-études, c'est plusieurs milliers de dollars par année. Alors que,
voire dizaines de milliers.
Oui, exact. Ouais. C'est, avec t'sais, tous les tournois, les accompagnements, les déplacements et tout ça, on parle de plusieurs milliers de dollars. Mais pour être dans les Carabins, c'est en bas de 1000 dollars par année. Donc, c'est un accès à énormément de valeur pour très peu. Là, on est en train de travailler pour les prochaines années à aller chercher d'autres partenaires financiers, d'autres commanditaires pour pouvoir bonifier l'expérience, peut-être justement enlever la cotisation, offrir des bourses. Les joueurs aussi ont accès à partir de la deuxième année de bourses sportives et de bourses scolaires, donc tout dépendamment des résultats sportifs qu'ils ont puis des résultats scolaires. Il y a différents volets de bourses. Donc, c'est pas comme aux États-Unis qu'exemple, on donne un scholarship gratuit pendant 4 ans. On n'est pas encore rendu là, mais c'est dans les plans pour les prochaines années.
Vraiment intéressant. C'est vraiment un très beau projet. Puis ça fait plaisir de voir ça pour le tennis local. Déjà, après quelques semaines à la tête du groupe, une première bannière, donc champion canadien. Parlons un peu de tes premières semaines, premiers mois avec l'équipe, David.
Oui, moi, je suis arrivé à la fin mars, là, donc juste pendant, en fait, le championnat québécois, l'équipe, à ce moment-là, était pilotée par Rachid Riani puis Delphie Poulain, qui avait fait un travail incroyable là, dans l'année précédente à préparer l'équipe. L'équipe masculine, en fait, a gagné le championnat québécois, ce qui fait en sorte que ça les qualifiait pour le championnat canadien. Les filles avaient perdu très serré contre McGill dans le championnat québécois, ouais. Donc ils n'ont pas pu faire le championnat canadien. Mais c'est ce qu'on a fait, en fait, en partenariat avec Rachid puis Delphie. En fait, j'ai voulu qu'ils continuent pour l'été. Donc, on s'est entraîné pendant tout l'été avec les gars et les filles pour préparer le championnat canadien. Puis, les joueurs ont bien répondu, ils étaient très présents aux entraînements. Ils faisaient aussi des matchs dans d'autres ligues. Donc, ils ont été très actifs. Ça a payé parce qu'on a joué contre Western en demi-finale qui était une très, très bonne équipe. Puis, physiquement, les joueurs étaient présents. Les joueurs de Western, il y en a plusieurs qui ont eu soit des crampes ou des petites blessures. Donc, ils n'ont pas pu tenir physiquement. Donc, mais nos joueurs étaient quand même bien prêts. Puis, il y avait une question de préparation, mais une question de fin aussi. Là, l'année passée, ils avaient perdu le championnat canadien en finale ouais. de façon très, très serrée. Fait que cette année, ils étaient motivés. Ouais. Ils avaient le couteau entre les dents, puis ils voulaient vraiment aller chercher.
Ce tournoi-là a lieu au mois d'août, à la fin de l'Omnium Banque Nationale, c'est bien ça. Hein? Donc, c'est accessible au public, c'est gratuit. Ouais. Comment ça se passe au niveau du lieu puis de l'accès?
En fait, c'est Tennis Canada qui organise le championnat canadien. Là, on vient de rentrer comme sport U-Sport. Donc ouais. Là, il y a U-Sport qui va s'impliquer pour le prochain championnat canadien. Mais c'est ça, c'est à l'intérieur de l'Omnium Banque Nationale, entre le jeudi et le dimanche de la dernière fin de semaine. Donc, on joue sur les terrains secondaires, là, les terrains 2, 3, 4, puis ouais. De 6 à 11. En fait, les terrains qui sont utilisés par les pros pendant l'Omnium. Puis, donc, c'est quatre équipes, une de l'Ouest, une de l'Ontario, une du Québec, puis une des Maritimes, qui s'affrontent, puis ça fait demi-finale, finale. C'est gratuit, c'est accessible au public. Ouais. On pouvait avoir des accès là, gratuits vers le site. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont venus nous encourager, des membres de la famille, des amis, des joueurs, des anciens cool. aussi de l'équipe de tennis qui sont venus. Puis là, ce qui était bien cette année, c'est qu'il y a eu le match de la demi-finale et finale de l'Omnium qui se sont joués le même jour.
Ouais.
Donc, après la demi-finale, il y a beaucoup de monde qui était sur le site, qui sont venus voir sur les terrains. Donc, ça a créé une excellente ambiance là, pour le match de la finale du dimanche. Donc, c'était vraiment super, super belle expérience.
Très cool. Ouais. Parle-nous de ta saison, donc 2023-2024 qui s'amorce. Là, on vient de passer la rentrée, mais dis-moi ce qui s'en vient pour l'année, la saison qui commence. Vous en êtes où en ce moment?
Oui, donc là, on a fait les sélections il y a environ 3 semaines. On a eu quand même au niveau des gars, 35 gars environ qui se sont présentés. Mmh. Chez les filles, il y en avait un peu moins quand même. On a constitué une équipe de 11 filles. Chez les gars, c'était une grosse année. Là, j'aurais pu faire 2 équipes de 10 avec du bon niveau, de la très bonne profondeur. Mm-hmm. Les sélections ont été compliquées. Là.
Un beau problème à avoir.
Un très beau problème. Ouais, exactement. Donc, on a une très bonne profondeur. Donc là, on est en train de faire des matchs pour évaluer les joueurs. Donc, je veux les placer en situation réelle pour voir quel genre de lacunes, quel genre de forces ils ont, puis un peu les mettre déjà en situation de pression pour qu'ils soient prêts. Notre saison commence par un championnat individuel, ouais. Donc un tournoi qui va se faire ici au Stade IGA à la fin octobre, là, 27, 28, 29 octobre, qui est organisé par Tennis Québec.
Ouais.
Puis par la suite, les matchs par équipe commencent au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, on va commencer les matchs par équipe. Donc, là, en ce moment, on évalue les joueurs dans des matchs. Ensuite, on va bien noter les lacunes. On fait de l'analyse vidéo aussi. Mm-hmm. On filme les matchs qui sont en train de jouer pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qu'on a à travailler. Puis ensuite, on a 6 mois pour se préparer pour le championnat québécois qui est à la fin du mois de mars. Donc,
excellent. C'est super. Écoute, on va être là, on va vous suivre. Puis je pense que les matchs qui sont au Stade IGA sont aussi accessibles au public. Oui,
exactement.
Ces matchs-là se jouent quand même seulement dans les matchs de ligue?
Ben, en fait, on joue toujours un match aller, un match retour pour ouais. chaque équipe. Fait qu'exemple, les matchs qui se jouent contre Concordia, qui se jouent contre McGill, contre l'ETS se font au Stade IGA. Puis un match sur deux, là, contre Sherbrooke, contre l'Université Laval, ça se joue au stade. Donc, on a beaucoup, beaucoup de rencontres qui se font au stade.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, les gens peuvent venir voir, c'est accessible gratuitement. Donc, nous, on va poster sur nos médias sociaux, Facebook et tout ça, les dates, comme ça, les gens peuvent venir voir. On invite les anciens de l'équipe de tennis, on invite les parents, les amis, puis n'importe qui veut venir nous voir, nous encourager, là, ça va nous faire plaisir.
Très cool. Ben, David Desrochers, bonne saison.
Merci beaucoup.
Merci d'être passé, puis à très bientôt.
Merci beaucoup, Hugues.
Excellente entrevue, une fois de plus, Hugues, et je le rappelle, ça faisait longtemps qu'on voulait l'inviter, et on se fera un devoir d'inviter un peu plus de joueurs universitaires, parce que c'est quand même du très haut niveau. Ouais, tu l'as ajouté?
Alex, c'est un très beau projet, le projet des Carabins, supporté par la famille Leblanc, la fondation de la famille Leblanc. Parce que c'est une voie de progrès, de développement et de continuité pour des joueurs de très haut niveau qui n'ont pas nécessairement envie de prendre un scholarship du côté américain, qui veulent rester pour différentes raisons au Québec, au Canada. Donc, le tennis universitaire est entre bonnes mains et un très beau plan pour l'avenir en ce moment, et les Carabins sont au centre de ça.
Oui, on n'en a pas parlé beaucoup, mais les championnats universitaires, en tout cas une partie des championnats universitaires, là, je ne suis pas super familier avec la saison universitaire, mais se déroule en même temps que l'Omnium Banque Nationale.
À la fin, oui, exact.
Au Parc Jarry. Là, oui. Alors, c'est intéressant de voir nos joueurs universitaires côtoyer les meilleurs joueurs au monde. Messieurs, c'était un autre excellent épisode. On garde un œil sur Félix Auger-Aliassime. Qui sait, peut-être que ce sera le tournoi où les choses vont se relancer pour lui. Et Nicolas Richard, je te laisse retourner à ton football, à ton volleyball, à ton hockey, peu importe. Mais avant, je te demande de fermer l'émission, comme c'est la tradition.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.